Salut, je suis Gary Beneza et je vous emmène dans les coulisses du Web3. Finances décentralisées, NFT, métaverse et autres innovations dans la blockchain, je pars à la rencontre des principaux acteurs francophones du Web3 pour comprendre comment ils ont lancé leur projet et comment ils sont en train de construire leur succès au quotidien. Découvrez tout de suite un nouvel invité passionnant qui réinvente le monde d'aujourd'hui grâce au Web3. C'est parti! Salut François, bienvenue dans les coulisses du Web3. Tu es co-CEO de Tropi. Est-ce que tu peux compléter cette présentation en me donnant ton âge, me dire où tu vis et ce que tu as fait avant Tropi?
Salut Gary, merci de m'accueillir aujourd'hui. J'ai 33 ans, j'habite dans le sud de la France, à Mougins, à côté de Cannes. J'ai pas mal vagabondé avant, j'ai vécu au Costa Rica, beaucoup à Londres, un peu à Paris, et je pense qu'après le Covid, je suis reparti un peu vivre un petit peu plus côté vert, côté montagne. Et avant Tropi, j'étais salarié dans pas mal de startups, et j'ai travaillé dans le marketing et dans Growth toute ma jeune carrière. Donc j'ai commencé après l'école à bosser en digital marketing sur une énorme boîte de voyance en ligne. Donc passionnant, un peu niche. On a tendance à se dire que c'est des choses un petit peu obscures et c'est des petits business, mais non, c'était vraiment un gros business pour le coup. Et ensuite, je suis passé par Londres où j'ai bossé chez Moo, qui est une boîte qui fait de la papeterie en ligne, une super belle boîte. Et ensuite, côté B2B SaaS à Paris, chez une boîte qui s'appelait Flexi et qui a été rachetée par Booksy, le leader de la réservation en ligne dans le monde. Et ensuite, Tropi. Donc pas grand chose, mais au final quelques années.
Est-ce que tu peux expliquer ce que fait Tropi?
Carrément. Tropi, c'est une plateforme d'utility, c'est-à-dire que ça permet à n'importe quelle collection NFT de créer n'importe quelle utility pour sa collection et en même temps aussi de donner une super expérience à leur holder, c'est-à-dire une expérience facile, donc tu vois, pas du Discord Web3 compliqué, une expérience facile, une expérience saine et une expérience anonyme. Donc Tropi, c'est une plateforme qui permet à n'importe quel créateur de créer les utilities qu'ils veulent et de donner une super expérience à leur holder.
Ok. Alors, je trouve que c'est vraiment une super proposition de valeur parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on parle beaucoup des NFT, notamment tu vois des CryptoPunks, des apes, enfin les singes, mais comme outil de spéculation. Mais c'est vrai que les utilités peuvent avoir beaucoup d'utilité dans la vraie vie. Et donc c'est ce que permet de faire Tropi. Est-ce que tu peux donner peut-être quelques use cases concrets que permet de faire Tropi?
Carrément, bien sûr. Ça, je peux même te parler des gens avec qui on a bossé. T'as beaucoup de gens en fait qui utilisent Tropi pour donner du merch, pour donner du physique. Donc tu vois, on a travaillé avec des Christian Lacroix qui ont donné une super écharpe à leur holder à leur holder. On a bossé avec des G-Star aussi qui ont donné du collectible, du physique, je veux dire. Avec Tropi, tu peux aussi donner des vidéos exclusives. C'est-à-dire que tu peux dire à certains de tes holders, voilà, je vous donne une vidéo exclusive. Tu peux donner des promo codes, tu peux donner certains podcasts même, des newsletters, tout ce qui est vraiment contenu à la fois physique et digital. C'est vraiment la vision qu'on a avec Tropi, c'est de se dire aujourd'hui une collection, c'est de l'art. L'art, c'est plus assez et l'art doit venir avec un produit, un service. Et au final, ce produit et ce service, c'est les utilities. Et du coup, la vision de Tropi, c'est vraiment de permettre à toutes ces collections d'ajouter un produit et un service via ces utilities.
Ok, très clair. On en reparlera après, mais c'est vrai que j'imagine que le but des entreprises qui consomment justement Tropi et qui font qui donnent de l'utilité via des NFT, leurs clients, c'est peut-être pour réengager leurs clients, repenser un peu l'expérience utilisateur, peut-être construire finalement une communauté client.
Il y a plusieurs choses en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas vraiment que moi, ce que j'aime beaucoup dans les NFT, c'est que les créateurs peuvent vivre de leur art ou même les marques peuvent gagner un petit peu plus grâce aux NFT. C'est-à-dire que dans le monde réel, dans le Web 2, quand tu vends un produit, un service, l'argent que tu vas gagner en tant que créateur s'arrête au moment où le produit ou le service sort de la porte du magasin. Avec les NFT, ce que je trouve génial, c'est que en tant que créateur, tu vas gagner de l'argent bah, quand tu vas minter, c'est quand tu vas vendre ces NFT lors de la première vente. Mais surtout, et quand tu regardes les plus grosses collections, là où tu vas faire le plus d'argent, c'est sur le marché secondaire. Et en fait, en réfléchissant un peu, tu te dis bah, comment ces collections-là font pour avoir un marché secondaire qui génère beaucoup d'argent. Et pour avoir un marché secondaire, il faut garder cette attractivité, il faut faire en sorte que tes NFT vivent, et pour qu'elles vivent, il va falloir créer des utilités. Donc on voit de plus en plus de, je pense que c'est la compréhension générale aussi, de collections qui créent ces utilités justement pour, un, garder leur holder, tu vois, garder l'attractivité auprès des holders, deux, bah, attirer d'autres potentiels collectionneurs, et trois, bah, rester très attractif sur le long terme et donc bénéficier aussi bah, par défaut de ces royalties.
Ok, hyper intéressant. C'est vrai que on voit pas mal de marques qui font un peu de pour avoir de la visibilité dans les médias, qui créent des collections NFT, mais sans véritable utilité. Et c'est vrai que voilà, bon, en général, ça va faire un petit buzz et après ça retombe directement parce que finalement, bah, comme la collection ne sert à rien, le NFT va être oublié en général. Et c'est vrai que là, ouais, l'intérêt justement, c'est de pouvoir donner de l'utilité au NFT. Tout au long de la vie client et pas juste pour un instant précis. Ouais. Super. Est-ce que, pour venir dans les coulisses un peu de la création de Tropi, est-ce que tu peux me dire un peu comment tu as eu l'idée de Tropi, quand est-ce que vous l'avez créé, comment ça s'est passé finalement
on a vécu des aventures. moi j'étais salarié et j'avais très envie de monter un business, mais je sais que monter un business, c'est avant tout trouver l'humain, c'est l'humain. J'avais aucune expérience en entrepreneuriat et j'ai eu la chance dans le perso de rencontrer Guillaume Lestrade, qui est mon associé chez Tropi. Guillaume Lestrade qui est déjà un super BA en France et qui en plus de ça a déjà monté des business à succès. Il a été cofondateur de Miro, il a aussi été cofondateur de Lito. Donc tu vois, il a quand même fait une licorne, il a quand même fait une autre boîte qui s'est vendue très très bien il y a quelques années. Et du coup, j'ai rencontré ce mec-là et on a commencé à discuter un petit peu de business. Et au final, bah, à force de le tanner, de lui dire, bon, bah, vas-y, regarde, je suis chaud, on peut monter un business ensemble. Il a fini par céder. Au début, Tropi, c'était, on s'était lancé sur un business, on voulait étudier la météo-sensibilité, l'impact de la météo sur les ventes e-commerce. Bon, on a vite compris que c'était pas vraiment un problème fort. Du coup, on a pivoté légèrement, mais on s'est surtout rendu compte à la fin de l'année dernière que le Web3 était en train d'éclater. Nous, ça nous intéressait beaucoup d'un point de vue personnel. Et donc, on a décidé, on s'est regardé dans les yeux, on s'est dit, bon, bah, c'est peut-être le moment de regarder vraiment ce qu'on peut faire sur le Web3. Je te passe un petit peu les détails, mais on s'est un petit peu structuré sur ce chemin-là. On a été rejoint par Pierre, qui est mon cofondateur qui s'occupe du produit, par Patrick, qui est mon cofondateur qui s'occupe de la tech. On est quatre cofondateurs chez Tropi. Et donc, du coup, on a commencé à regarder le Web3. On a vite compris une chose, c'est qu'il y a pas mal de choses en commun entre le e-commerce, qu'on connaît bien, et le Web3. Dans le e-commerce, on te dit toujours... c'est très très dommage de privilégier l'acquisition par rapport à la rétention, et c'est assez similaire dans le Web3, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup de collections, on voyait beaucoup de collections en tout cas quand on s'est lancé qui focalisaient sur le mint, et donc d'ailleurs tu voyais de nombreuses boîtes qui se lançaient juste pour aider à minter, mais vas-y.
Ouais, juste pour peut-être expliquer un peu la notion de mint.
Ce que j'appelle le mint, c'est la vente primaire, c'est-à-dire la première vente d'une collection NFT. En général, je dis bien en général, un créateur va créer sa collection et puis il va la vendre une première fois. Donc, tu vois, c'est les original minters, les premières personnes qui vont minter les NFT. Donc, c'est les premières personnes qui vont mettre ces NFT sur la blockchain. Et donc, c'est vrai qu'à l'époque, bah, tu vois, toutes les boîtes se focalisaient là-dedans parce que c'était le marché était comme ça. Et nous, on s'est vite posé la question, mais qu'est-ce qui se passe après le mint? C'est quoi l'histoire qu'en tant que créateur, tu racontes après le mint? Comment tu fais aussi pour pérenniser le business? Parce que faire des NFT, on l'a vu, je pense que les derniers mois nous l'ont prouvé, c'est un business. C'est un business qui peut durer dans le temps. Quand tu vois des Yoga Labs, etc., tu vois, c'est pas juste ils ont lancé une collection d'NFT, c'est qu'il y a une vraie histoire qui est en train de se créer, il y a des vrais projets qui en sortent derrière. Et donc, on s'est rendu compte qu'en fait, la façon, avec, enfin, le mot que les collections utilisent pour parler de ce business qui se crée après le mint, c'est le mot utility. Qu'on a creusé, creusé, creusé. On a vraiment compris une chose, c'est que c'était super bordélique à créer et une horrible expérience pour les holders. Donc, à créer des utilities, à savoir, la problématique du Web3, c'est que t'as pas d'email, t'as rien, donc tu as juste un wallet adresse. Donc, il faut que tu donnes de la valeur à un wallet adresse. C'est très compliqué. Et la deuxième problématique, c'est que tout se passait sur Discord. Les gens faisaient des Google Forms. Enfin, c'était pas du tout sécurisé. C'était vraiment très très bordélique. Il y a aussi, on s'est rendu compte aussi que beaucoup de holders, parce qu'il fallait être sur Discord, oubliaient certaines utilities. Enfin, ils passaient à côté. On a vu des gens qui sont passés à côté carrément de raffles où ils ont gagné des Ethers, par exemple. Deux problèmes. Très très compliqué de créer ces utilities pour les créateurs. Et deuxième problème, une expérience vraiment franchement MS-DOS, hein, c'était super old school pour les holders. Du coup, à partir de ce constat-là, bah, Tropi est né pour donner du pouvoir aux créateurs et puis permettre à ces holders de kiffer leur NFT life.
Ok, très clair. C'est un beau constat, je pense. Et c'est marrant parce que du coup, vous avez vraiment fait la transition entre du Web 2 au Web 3. Par rapport à Guillaume, tu as pas mal insisté pour, entre guillemets, pour créer un projet avec lui. Comment vous avez été amené à rencontrer Pierre et Patrick, vos deux autres associés?
Bon, l'histoire de Tropi, elle s'est beaucoup faite grâce à nos femmes. Guillaume et moi-même, on s'est rencontrés par l'intermédiaire de nos femmes qui bossaient ensemble. Nos femmes faisaient des rallyes de voitures anciennes. Elles organisaient des rallyes de voitures anciennes et on s'est rencontrés par le biais de nos femmes. Et une fois que l'association s'est faite avec Guillaume, on a rencontré Pierre aussi, grâce à la femme de Guillaume qui connaissait Pierre. Et Patrick, ça a été une expérience folle. C'est-à-dire qu'à l'époque, on regardait certaines technos qui nous intéressaient. Et il se trouve que Patrick, c'est quelqu'un qui avait bootstrappé une startup tout seul sur cette techno qui nous intéressait. On lui a juste envoyé un message sur LinkedIn. On a fait un call et le mec a décidé, ouais, ils sont cool ces trois mecs. On peut se lancer ensemble. On a commencé à tester les eaux. On s'est mis d'accord. On s'est tapé dans la main et on a commencé à bosser avec Patrick. À savoir, Patrick, on l'avait jamais vu en vrai. On s'était déjà associé. Et Patrick, c'est un Irlandais qui vit au Portugal. Ouais, c'est une bonne histoire. Et du coup, après, on s'est rencontrés. Et voilà, ça fait maintenant plusieurs mois qu'on bosse tous ensemble et ça se passe super bien.
Super. Ouais, c'est toujours original les histoires de comment les fondateurs se rencontrent. Et celle-là, elle est plutôt pas mal. Une fois que vous avez commencé à travailler ensemble, ça a été quoi les grandes étapes pour justement peut-être créer la première version de Tropi, avoir peut-être les premiers clients?
Déjà, on est une boîte très produit, à savoir qu'on a la chance, que ce soit Guillaume, que ce soit Pierre, Patrick ou moi, on est très product-led et on est très value-led. Donc, on part pas d'une idée, souvent on part d'un problème. Et c'était tout le challenge de Tropi au début, c'était répondre à un problème actuel et construire une vision super ambitieuse. Et ça, c'était vraiment notre challenge. On a vu beaucoup de boîtes dans le Web3 qui se sont lancées, qui répondaient pas forcément à un problème actuel. Nous, on avait vraiment cette envie-là de répondre à un problème actuel, avoir une traction initiale en très très peu de temps, faire un MVP avec déjà de l'utilisation. Et ça a bien marché. C'est-à-dire qu'au début, on a fait une première brique qui permettait à n'importe quelle enfin, à n'importe quelle, pardon, collection NFT mintée sur Ethereum de faire une utilité, juste une qui était la plus utilisée, c'était celle de donner du merch. Donc, on a fait un MVP là-dessus, on a commencé à avoir de l'utilisation. Et on a eu 20 mints, collection française, qui nous a fait confiance pour donner des ledgers à certains de leurs holders. À savoir qu'avec Tropi, tu as tout ce côté de segmentation. Donc, en tant que créateur, tu peux sélectionner qui de tes holders ont accès à une utilité Tropi. Et qui, ça peut être quelles properties, ça peut être des holders qui ont plus de X NFT, ça peut être des holders qui ont ton NFT depuis plus de X temps. Ça peut être les original minters et tu vois des segmentations, on en a plein et on va en créer plein. Et donc c'est Laurent de 20mint qui nous a fait confiance et du coup bah c'était lancé. Après le travail pour nous ça a été juste d'améliorer ce produit, d'améliorer la vision, de comprendre les enjeux Et on vraiment s'est lancé vite, hein, entre l'idée initiale et la première utilisation, il s'est passé un mois, 2 mois.
Ok, ouais, donc ça c'était vraiment rapide. 20 minutes, on est d'accord, c'est le projet de 20 minutes, du quotidien 20 minutes qui s'est
C'est
lancé dans
ça.
les NFT. D'accord. Et à partir de ce premier MVP, après, comment vous y êtes pris pour trêver d'autres clients bêta-testeurs
C'est ce que j'aime aussi dans le monde du Web3, c'est que les gens parlent beaucoup entre eux et les gens sont assez ouverts. Je pense que tous ont cette problématique où il n'y a pas assez de techno qui leur permettent de faire des utilities. Du coup, on a reçu énormément de demandes des gens qui voulaient utiliser Tropi pour commencer à faire des utilities. Donc, assez organiquement, on a eu cette chance-là de faire parler un peu de nous et on a reçu beaucoup de demandes, vraiment des milliers de collections NFT enfin, en tout cas des milliers de leads qui se sont intéressés à Tropi et qui ont voulu tester Tropi. Donc après, nous, on a fait vraiment ce travail, vu qu'on est toujours en private bêta et on va passer en public, mais on a fait vraiment ce travail de privilégier, de choisir les bonnes collections, celles sur lesquelles on peut donner le maximum de valeur, mais surtout celles avec lesquelles on peut apprendre. On a vraiment cherché à être entouré de personnes qui pouvaient challenger l'outil et qui pouvait nous permettre de l'améliorer rapidement et avec du bon feedback. Donc c'était tout l'intérêt de cette private beta, c'est de parler à un maximum de gens, c'est d'écouter les utilisateurs, à la fois les créateurs, mais aussi les end users, et de voir un petit peu comment on peut améliorer les deux bouts pour faire de Tropi une plateforme qui donne une super satisfaction et énormément de valeur.
Ok. Et d'ailleurs, par rapport à cette première version, c'est Patrick qui l'a développé tout seul. Vous avez recruté des développeurs, vous êtes passé par des freelances.
Donc au début c'était Patrick tout seul qui a fait un MVP. Ensuite, on avait déjà un développeur avec lequel Patrick a travaillé. On a ensuite passé par quelques freelances pour le front-end et on a commencé à se structurer petit à petit au fur et à mesure de l'attraction, au fur et à mesure aussi du financement. Jusqu'à maintenant, on est une petite équipe. On est une équipe de 11 personnes, majoritairement du produit et de la tech. Et on arrive à bien délivrer. On est très excité par les nouvelles features qu'on va lancer. Donc, ouais, ça s'est fait assez rapidement au final. C'est vrai, quand il pense, on a vraiment commencé début d'année de 2022 et ça a été très très vite.
Ok. Et d'ailleurs, enfin, je crois qu'il y avait une levée. Alors, est-ce que cette levée, vous l'aviez faite pour le projet Web 2 ou pour Tropi?
On l'avait faite pour le projet Web 2, cette
Ok.
levée. Donc tu vois, ça aussi, c'est un super learning en tant qu'entrepreneur. C'est-à-dire que tu fais une levée, donc tu commites auprès d'investisseurs sur une vision sur laquelle tu as fait ta levée. Et du coup, on a eu la chance d'avoir des investisseurs qui croient en nous en tant qu'humain, en tant qu'entrepreneur et qui ont suivi le pivot. Je pense que c'est pas tout le monde qui a ça. Donc c'est intéressant de se dire que même si tu as levé des fonds, tu ne commit pas forcément sur cette vision ou cette petite traction initiale que tu peux avoir si tu penses pas que c'est la bonne voie. Enfin, des pivots, il y en a toujours, il y en aura toujours. Et c'était super intéressant d'opérer ce pivot. On l'a fait vraiment super rapidement. En une semaine, on a fait le pivot. On s'est dit, on a parlé à une tonne de personnes dans le Web3. On a commencé à parler à des collections aussi très rapidement. En une semaine, on s'est dit, allez, on se focalise sur Web3, on fait un MVP en quelques jours. Et on se lance très très rapidement.
Ok, ouais, je trouve ça super d'avoir justement la confiance de ces investisseurs. J'imagine que c'est très rassurant quand tu fais un tel pivot. Ok, je te propose de passer un peu aux coulisses de l'opérationnel. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez des concurrents ou vous êtes vraiment le seul acteur dans le Web3 à offrir de l'utilité à des owners de collections NFT?
Alors on était les premiers à venir sur ce concept-là. On a vu récemment pas mal de petits acteurs commencer à se positionner dessus. On n'a pas vu de produit encore, on n'a pas vu quelque chose de très très concret. En tout cas, moi je sais une chose, c'est que quand tu crées un produit qui réussit, qui a de l'attraction, forcément la concurrence va suivre, c'est une certitude. Du coup, il faut juste être prêt. Nous, on bénéficie quand même de ce first mover's advantage. C'est une certitude. Mais on ne peut pas se reposer sur nos lauriers. La concurrence sera aussi très certainement positive. Il nous en faut. En tout cas, on a vraiment cette ambition, nous, de devenir catégorie leader On sait qu'avec Tropi, on peut créer une catégorie sur tout ce qui est utility des NFTs. On peut devenir le leader de cette catégorie, créer ce mouvement. Et c'est ça qui nous excite énormément.
Ok. J'aimerais un peu revenir un peu sur la peut-être la culture produit chez Tropic, j'ai l'impression qu'elle est très présente. J'ai eu pas mal de fois le concept de community let growth revenir. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus à ce sujet?
Avec plaisir, ouais. On est tous très très fans de produits. On a tous beaucoup lu sur le produit. Alors, on a lu beaucoup sur les différents go-to-market qu'on a observés. Alors, les go-to-market sont différents et ont tendance à évoluer. Avant, tu étais sales-led growth. Donc, tu vois, c'est des entreprises avec des équipes sales qui appellent, qui bookent des démos et qui vendent au téléphone. Ensuite, tu as des entreprises qui ont été product-led growth. Donc, c'est des entreprises qui leveragent le product pour onboarder les gens, faire le support. Donc, c'est des bons exemples, c'est Slack, par exemple, qui est une entreprise où tu parles à personne, mais tu passes par le produit pour expérimenter la valeur. Et tu as des entreprises qui cartonnent, et il y a pas mal d'exemples récents qui prouvent ça, qui utilisent le community-led growth. Le community-led growth, c'est le fait d'utiliser la communauté sur tous les aspects de ton produit. Et un bon exemple, c'est Figma, par exemple. Quand tu vas sur Figma, c'est la communauté qui fait le support. Quand tu vas sur Figma, c'est la communauté qui donne des feedbacks au produit. Quand tu vas sur Figma, aussi, tu as des templates qui sont pas faits par Figma, mais qui sont faits par la communauté. Donc c'est vraiment, tu vois, c'est quand on parle de concurrence, là, pour moi, la plus grosse différence se fait sur le go-to-market entre une boîte qui peut être bien et une boîte qui peut être énormissime. Vraiment, la concurrence se fait sur le go-to-market. Quand tu regardes Figma, qui, je crois, récemment s'est vendu 20 milliards, comparé à un Sketch, en termes, bien sûr, le produit est différent, mais le gros, gros changement, c'est le go-to-market. Et nous, on a vraiment cette ambition de faire une boîte où la communauté est partout dans le produit, où la communauté est omniprésente dans le produit. Et en termes de boîte aussi, c'est important parce que ta barrière à l'entrée, elle se fait sur le produit, mais un produit, c'est facilement, tu peux le copier assez facilement. Une communauté, c'est très très compliqué à copier. Donc, c'est pour ça que ce concept de community-led growth qu'utilisent des boîtes comme Webflow ou même Notion est fascinante. Tu vois, sur Webflow et Notion, tu as carrément des influenceurs Webflow, des influenceurs Notion, des influenceurs Figma. Tu vois, encore une fois, c'est la communauté qui fait ton marketing. C'est des concepts vraiment, une fois que tu commences à te poser un petit peu dessus, ça change toute ta vision de ta boîte.
Ouais, effectivement, totalement, et d'autant plus que vous développez un outil pour développer les communautés, donc c'est encore plus dans cet esprit-là. Et c'est marrant comment vous faites en fait pour justement être focus sur la communauté. Alors, vous avez un Discord qui est, j'imagine, assez présent. Est-ce qu'il y a d'autres outils aussi? Enfin, c'est quoi les grands canaux pour justement récupérer, peut-être, enfin, échanger avec la communauté? Ouais, notamment échanger avec la communauté.
Aujourd'hui, en fait, si tu veux, on est au début, donc le produit en private beta, c'est pas le meilleur moyen d'utiliser le produit pour leverager la communauté. Mais dans la vision qu'on a, on imagine un produit très ouvert où les créateurs pourront voir les utilities qui ont été créés par d'autres créateurs, s'en inspirer, potentiellement les dupliquer, les améliorer, les changer. On imagine aussi, en tant que holder, se rendre sur Tropi et voir les utilities NFTs qui ont été créés par d'autres marques. Tu vois, vraiment, le côté ouvert est super important pour nous. Et on a vraiment envie de développer chaque aspect de cette boîte, le support, le feedback produit, le marketing, toutes ces chaînes de valeur à partir de la communauté. Et en fait, quand on fait des choix produits, même si pendant ce temps, c'est pas très visible parce que on est en bêta privée, mais je pense que les gens le verront très, très bientôt. On va essayer, en tout cas, on va tout faire pour mettre la communauté au cœur de tout ça et garder cette vision, ce go-to-market qui nous tient vraiment à cœur.
Ok, super intéressant. Donc ça veut dire que potentiellement demain, on pourra avoir des utilisateurs de Tropi qui pourront créer eux-mêmes une utilité en fait pour d'autres. Ok, c'est génial. Ouais.
Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça va être, on espère pousser le délire très très loin et faire en sorte de donner encore plus de valeur. En tout cas, on croit vraiment en ce concept d'utilities et on pense qu'il y a une chaîne de valeur très très large, un scope très très large à aller chercher pour les créateurs, les holders.
D'accord. D'ailleurs, par rapport au, même dans la définition de votre roadmap, j'ai l'impression aussi que la communauté intervient déjà pas mal. J'avais vu par exemple sur votre Discord que pour le choix d'intégration des nouvelles blockchains comme Polygon ou Solana ou la BSC ou Tezos, que finalement vous aviez fait un sondage auprès de la communauté pour savoir quelle blockchain intégrer en priorité.
Bien sûr, ouais, on demande à la communauté. Après, à la base, c'est un travail produit, ça, t'écoutes les besoins des gens et justement, dans le futur, à la place, toi, en tant que product manager, de prendre le téléphone et d'appeler les gens et d'appeler 15 personnes, 20 personnes pour leur demander, quoi de mieux que de jouer le jeu du volume et demander à la communauté et tu as directement 500 votes, c'est complètement indéniable. Ça n'empêche pas de faire du qualitatif et d'appeler les gens, mais en tout cas, c'est une sécurité en plus et c'est ça qu'on trouve fascinant.
Ok. Et d'ailleurs, comment ça se passe? C'est intéressant, le choix des nouveaux use cases que vous allez développer pour donner de l'utilité. Donc, d'ailleurs, tu parlais de merchandising, par exemple, alors j'ai vu aussi qu'il y avait, par exemple, je crois, le droit de vote. Comment vous choisissez un peu les use cases que vous allez développer en priorité? Est-ce que c'est par rapport à des intuitions? C'est par rapport aux bêta testeurs déjà, qui utilisent déjà Tropi?
Au tout début, vu qu'on n'avait pas forcément une grosse connaissance, on ne connaissait pas énormément beaucoup de créateurs, on a juste analysé les top 100 roadmap sur OpenSea. Et on s'est juste rendu compte, en regardant la data, qu'il y avait des choses qui revenaient très très souvent. Du merch, des vidéos exclusives. Et donc, on a commencé à gratter là-dessus. Aujourd'hui, c'est un vrai travail de priorisation qu'on fait. C'est-à-dire que c'est toujours qu'est-ce que les utilisateurs veulent. On met en face qu'est-ce que ça nous coûte, nous, ou qu'est-ce que ça nous prend comme temps de faire cette feature. Et puis, on priorise toujours entre la valeur qu'on donne et le temps que ça nous prend. Donc, tu vois, c'est toujours une priorisation intelligente entre ce que les gens veulent et ce que nous, on peut donner rapidement. Le but, c'est toujours de donner la valeur de façon priorisée et très rapide à nos créateurs. Donc aujourd'hui, on continue à bosser sur toujours optimiser les features, que ce soit côté créateur, côté holder, pour faire en sorte que la valeur soit le plus rapidement là et qu'on avance le plus rapidement sur notre vision.
Ok. Est-ce que tu pourrais donner des différences entre Tropi et une boîte traditionnelle en termes de gestion? Je pense qu'il y en a, par exemple, je crois que vous êtes vraiment full remote, enfin toute l'équipe est en... un peu aux quatre coins en tête de l'Europe.
Ouais, on est en full remote. Alors, quand on s'est lancé justement avec Guillaume, c'était très rare. On prenait les exemples de boîtes comme Zapier qui était très, très, qui était full remote. À l'époque, c'était vachement rare. Au final, maintenant, le Covid est passé par là, c'est devenu un peu plus la norme. Mais nous, on a toujours voulu monter une boîte internationale. On a toujours voulu monter une boîte avec de la diversité. Moi, j'ai un background où j'ai vécu à Londres, j'ai vécu dans des boîtes où ça parlait toutes les langues, j'ai vécu dans des boîtes où il y avait tout type de personnes et j'ai adoré ça. Et je veux que Tropi ressemble à ça. Du coup, c'était important d'avoir cette diversité à la fois dans l'équipe cofondatrice, mais aussi dans tous les employés. Aujourd'hui, Tropi, c'est une dizaine de personnes, tu vois, mais demain, ça peut devenir bien plus gros. Et j'espère qu'on continuera à garder cette culture. Donc ouais, en effet, on est en remote, ça fonctionne très très bien et on se rejoint tous les 3 mois dans un endroit en Europe pour faire des activités, pour parler un peu de la vision, pour débloquer aussi des choses qui sont plus compliquées à débloquer en remote. Parfois, dans la vraie vie, ça te permet de débloquer des choses qui sont plus compliquées en remote. Et voilà, franchement, c'est un kiff le remote.
Ouais, c'est intéressant. Vous avez vraiment une boîte finalement qui vous ressemble. Et c'est top, ouais, d'avoir vraiment de recréer finalement l'environnement idéal, quoi, que vous.
Carrément.
Vous avez en tête.
Tu pars sur une aventure entrepreneuriale qui va être longue, ça va être un marathon. Autant faire en sorte qu'elle soit marrante, cette aventure, avec des gens qui sont fun aussi, et que tu puisses t'éclater un petit peu. C'est fatigant d'entreprendre, c'est compliqué, donc autant faire en sorte que l'aventure soit marrante et qu'elle ressemble un minimum.
Ouais, totalement. Et en parlant de vision, est-ce que tu peux nous en dire plus aujourd'hui sur la vision de Tropi?
Carrément. Aujourd'hui, si tu veux, la vision, c'est de faire en sorte que le produit soit totalement ouvert et que ce soit limite comme une marketplace. Si tu veux, on a cette vision où on a envie que déjà ce soit très très facile de créer n'importe quelle utilité. Donc avec le produit, on a ce challenge-là d'apporter cette flexibilité pour que les créateurs puissent vraiment créer l'utilité qu'ils veulent. L'utilité qu'ils veulent, c'est segmenter les personnes qu'ils veulent, c'est potentiellement demander les infos qu'ils veulent et aussi donner la valeur qu'ils veulent, que ce soit un QR code, que ce soit un voting, que ce soit du merch, que ce soit une vidéo, un podcast, une newsletter, une event, etc. Donc déjà, c'est la vision, c'est vraiment de donner aux créateurs les clés dont ils ont besoin pour créer toute cette stratégie d'utilité qui vont, eux, leur permettre d'avoir un marché secondaire fructifiant. C'est-à-dire un marché secondaire où tu peux utiliser les utilities pour un petit peu inciter les gens à potentiellement acheter plus, à potentiellement garder un peu plus les NFT. L'idée vraiment, c'est d'utiliser ces, de leur donner les clés avec ces utilities pour gérer un petit peu ce floor price, gérer un petit peu ce volume de vente. Donc vraiment donner de la valeur aux créateurs, leur permettre de faire ce qu'ils veulent et surtout créer une super expérience assez public pour les holders. Donc, on aurait très bien pu se dire, Tropi, ça va être un produit en marque blanche qu'on va mettre sur le site des créateurs. Non, on est en train de créer cette plateforme très ouverte où, en tant que holder, tu pourras voir tes utilities de toutes tes collections et potentiellement aussi découvrir des utilities d'autres collections que tu sur lesquelles tu n'as pas forcément un NFT en ce moment-là. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'inspirer, d'éduquer et de créer un produit super ouvert, très communautaire autour des utilities.
Ok, c'est marrant, ça me fait un peu penser à Zapier finalement, où quand tu vas sur Zapier, tu as déjà des apps, entre guillemets, donc si je fais ci, ouais, il se passera ça, qui sont créées parfois par la communauté.
C'est exactement ça. Demain, tu auras, en tant que créateur, tu auras des inspirations faites par d'autres créateurs. Et tu pourras, par exemple, te dire, je vais aller voir ce que Lacoste fait comme utilities. Ah, ils ont mis cette segmentation. Ils ont mis ces utilities. Ils l'ont fait comme ça. Peut-être que je peux dupliquer, l'améliorer. Le but, c'est vraiment d'inspirer. On le voit, nous, avec nos créateurs. Déjà, on voit une chose, c'est que maintenant, ils pensent aux utilities de plus en plus tôt dans l'aventure. Donc ça, c'est fascinant. Avant, on voyait que les utilities venaient vraiment un petit peu plus tard. Maintenant, on voit que, avant même de minter, ils pensent déjà au marché secondaire, aux utilities. Donc ça, c'est génial. Et on voit surtout qu'ils ont besoin d'être inspirés, ils ont besoin de pouvoir créer ce qu'ils veulent, ils ont besoin aussi de voir ce qui se fait. Donc le côté CLG, le côté community-led growth, là-dessus, il est super super bon pour nous parce que ça va juste permettre à ces créateurs d'avoir encore plus d'inspiration et de créer plus d'utilité.
Et je trouve ça top parce que voilà, c'est les NFT avec cette vision-là ne sont plus vus comme un moyen de faire un buzz ponctuel, mais vraiment de s'inscrire dans la durée et de vraiment avoir un vrai intérêt et faire peut-être le lien entre le offline, le online. Et ça, c'est top. Par rapport à... Parce que j'ai l'impression que ça... finalement, tout s'est passé très vite depuis la création de Tropi. Vous allez très, très vite. Est-ce que tu peux nous donner des victoires que vous avez eues jusqu'à maintenant et ensuite aussi peut-être des échecs auxquels vous avez dû faire face?
Des victoires qu'on a jusqu'à maintenant écoute, franchement, je suis très très fier en tout cas de l'équipe qu'on a créée. La semaine dernière, on était tous en Pologne, comme je te disais, et on a une super équipe. Donc ça, c'est vraiment une victoire parce que je trouve que quand tu crées un business, l'équipe que tu crées au début, ce sont les gens qui vont prendre ta vision et la donner demain à leur équipe, aux gens qui vont arriver. Donc pour moi, c'est une super victoire d'avoir réussi à faire une équipe. De super humains, tu vois, de bonnes personnes, super motivées, qui se voient dans le projet aussi. Donc ça, c'est une super victoire. Aussi, on a eu beaucoup de chance avec la traction. On a réussi à avoir quand même une belle traction initiale en peu de temps, d'arriver certainement au bon moment. Une bonne boîte, c'est un bon timing. Et je pense que sur ce filon de utilities, on est arrivé au bon timing. Et justement, on va continuer à créer, à construire cette plateforme pour que pour le prochain bull market on soit là et qu'on explose. Donc ouais, ça c'est des grosses victoires pour nous, le fait d'avoir déjà ce go-to-market en tête, cette vision produit, d'avoir vraiment ce côté produit qui est dans l'ADN de la boîte, une super équipe qui suit là-dedans et qui est super motivée là-dedans. Et après, bah, en termes de difficultés, c'est les plus grosses difficultés, c'est de prioriser, c'est de savoir quoi faire après sans se tromper. Parce qu'au final, c'est une course. C'est-à-dire que on a cette vision-là, on sait qu'elle a du sens, et c'est une course pour aller vers cette vision-là, pour construire Tropi comme étant une boîte qui va devenir le catégorie leader sur tout ce qui est utilities. Et donc, bah, c'est une course, et comme toutes les courses, bah, il faut prioriser en fonction des efforts, en fonction de l'argent, en fonction de l'équipe, en fonction des utilisateurs surtout, et leur donner le plus de valeur le plus rapidement possible. Donc ça, c'est notre challenge de tous les jours, bien prioriser tout ce qu'on fait, que ce soit le marketing, bien prioriser le produit, surtout la tech, faire les bons choix. C'est vraiment les plus grosses difficultés, et je pense que ça doit être la difficulté de tous les entrepreneurs en early stage comme nous.
Intéressant. Et ouais, je suis d'accord avec toi, la priorisation, c'est clé. Et d'ailleurs, est-ce que aujourd'hui vous avez des process, une méthode pour justement prioriser? Donc tu parlais de marketing, mais aussi de produits.
Nous, on commence la semaine avec ce qu'on appelle un feature pulse, c'est-à-dire qu'on regarde les briques, les features ou les améliorations qu'on va lancer prochainement. Donc tu vois, souvent il y en a qui sont parallélisés. Donc on regarde ces briques-là, on en discute et on essaie d'intégrer toute l'équipe sur le produit. On pense vraiment que le marketing peut se faire via le produit. On pense vraiment que le support peut se faire par le produit. Vraiment toutes les équipes, que ce soit marketing, partenariat, que ce soit tech, demain support, etc. On est convaincu vraiment que ces équipes-là doivent penser comment j'utilise le produit pour donner de la valeur et pour m'aider dans mon travail. Et ça, c'est intimement product-led, tu vois, c'est comment tu utilises le produit pour t'aider dans ton travail. Donc, on commence la semaine avec ce feature pulse, on regarde quelles améliorations de produits on peut faire pour chacun des corps de métier. Et ensuite, on se reparle toujours au cours de la semaine sur ce qui est en cours, et on essaie vraiment de mettre une dynamique positive pour avancer rapidement en pensant toujours valeur et donc produit.
Ok. Ouais, finalement, c'est un peu des sprints de une semaine pour que ce soit voilà, plus réactif et pouvoir changer peut-être en cas s'il y a des nouvelles configurations qui arrivent en cours de route, enfin nouvelles choses.
C'est ça. C'est un peu idyllique parfois de dire un sprint d'une semaine. La tech te remet vite
Voilà.
la tête dedans. Hein.
Ouais.
Quand tu leur dis bon, on peut faire ça en une semaine, non, 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 ouais, ça va prendre X, Y, Z, et tu comprends pas. Moi, j'ai pas un profil tech de base, donc c'est super stimulant pour moi parce que je comprends que parfois il y a des process longs. Il y a des process longs parce qu'il peut y avoir de la dette technique, parce qu'il peut y avoir beaucoup d'autres choses. Donc, je commence à comprendre un petit peu tout ça. Mais ouais, en tout cas, on essaie de prioriser, on essaie de rester lean, toujours, d'apporter de la valeur en étant intelligent, sans faire trop de code, sans faire trop de produits, mais tout en donnant une expérience satisfaisante, en gardant le trust, en gardant la confiance des utilisateurs. Donc, on essaie de faire ça intelligemment. C'est pas toujours facile.
Ok. Tout à l'heure, tu parlais justement du fait que vous étiez encore en bêta test et que vous alliez justement ouvrir au public. En termes de tarification, justement, c'est intéressant parce que vous êtes sur un nouveau marché où vous êtes vraiment le principal acteur aujourd'hui. Comment ça se passe finalement pour définir un pricing?
Aujourd'hui, le pricing est gratuit. Si tu veux, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est pas forcément de gagner de l'argent, c'est de prendre le marché. Et pour prendre le marché, il faut deux choses, de l'attraction et donc de la satisfaction. On a pris le parti aujourd'hui de se focaliser sur l'utilisation du produit, avoir des super métriques d'utilisation du produit, une grosse satisfaction et aussi une courbe de traction forte pour ensuite monétiser tout ça. On a de très très bons leads pour savoir comment on va monétiser cette plateforme. Il y a une vision très très excitante qu'on a devant les yeux, qui est de faire en sorte que chaque utilities devienne elle-même des NFTs. Et ça, on trouve ça fascinant, si tu veux, parce que aujourd'hui, tu imagines, toi, Gary, t'as un Bored Ape, et une des utilities, c'est d'aller à une soirée à San Francisco. Tu peux pas y aller, t'es en France, ça t'intéresse pas, t'es pas trop DJ. Et donc, aujourd'hui, cette utilities, tu peux rien en faire, tu la rates et tu gagnes rien. Imagine demain si cette utilities, c'est un NFT. Et toi, Gary, donc tu as droit parce que tu as un Bored Ape, on te donne un utility NFT de cette soirée, et tu dis, bah, pff, ça m'intéresse pas en fait. Bah, La valeur que tu peux trouver toi en tant que holder, c'est peut-être de vendre cette utility à quelqu'un que ça intéresse. Et donc toi, en tant que holder, tu gagnes encore plus de valeur par rapport à ce Bored Ape. C'est-à-dire que tu fais de l'argent grâce au produit, grâce au service que Bored Ape te donne en tant qu'utility. Et donc ça, c'est génial. On imagine ça comme étant un life changer dans notre roadmap parce que on pense que en effet, les collections vont penser à des produits, des services, des utilities. Mais il y en a certaines qui vont pas intéresser les holders et pourquoi ne pas créer un circuit quelque chose de monétaire là-dedans qui donne de la valeur aux holders, qui donne aussi de la valeur aux créateurs parce que ça leur permet de créer plus d'utilities et donc plus de NFTs. Donc c'est super intéressant. Un bon exemple juste pour te donner un peu de visuel, c'est Gary Vee qui a sa collection Vee Friends et Gary Vee qui fait aussi chaque année la Vee Con, une grosse conférence sur autour du Web3, mais aussi un petit peu de tout dans l'univers des médias. Et à la place, Gary Vee, à la place de dire bah, tous les gens qui ont un VeeFriends, je vais leur donner accès à la VeeCon, il a dit tous les gens qui ont un VeeFriends, je vais leur donner un NFT VeeCon qui donne accès à la VeeCon. En fait, quand tu vas sur OpenSea et que tu vois ce NFT VeeCon, tu vois qu'il y a eu des tonnes d'échanges. Il y a plein de gens qui ont pas été intéressés, qui ont vendu le ticket. Je crois que ça a fait à date 3600 Ethers juste sur un utility NFT. Donc, un utility NFT. Donc, ça, c'est super intéressant, je trouve. En tout cas, comme vision, on verra comment ça avance. On verra comment le marché avance là-dessus. Mais je pense qu'il y a de la valeur à donner partout.
Complètement. Et je trouve que c'est un très bon exemple que tu donnais parce qu'effectivement, voilà, si je suis owner, je suis un holder d'une collection NFT et qu'il y a un événement et que je peux pas y assister, bah autant que je puisse revendre ma place entre guillemets, parce que je pourrais peut-être aller aux prochaines éditions. C'est juste que par exemple, je pouvais pas aller à celle-ci. Et c'est vrai que ouais, le côté utilité latent, il est top et j'imagine qu'il y a plein de use case dans la vraie vie. Il y a notamment, tu vois, un use case auquel je pensais, c'est finalement comment transformer les NFT en tickets. Mais avoir en fait ton NFT directement dans ton téléphone et que ce soit directement un ticket sans même passer par un QR code. J'imagine que c'est un problème qui a, enfin, un use case qui a pas encore été craqué, mais qui sera craqué bientôt peut-être.
Je crois qu'il y a pas mal de boîtes qui sont vraiment dans cette niche de ticketing. Je pense qu'on aura des Ticketmaster qui vont se mettre dedans aussi très largement, sans qu'on voit que c'est un NFT. Ils vont faire un bon boulot, je pense, là-dessus. Aussi, c'est quelque chose qu'on regarde bien sûr. Ouais, que ce soit pour les events, que ce soit même, tu vois, imagine Christian Lacroix qui te donne une écharpe, un foulard ou je ne sais quoi. Tu peux juste te dire, bah, je vais pas le claim, c'est utility. Par contre, je vais le garder en tant que NFT et tu peux le vendre. À la place, tu vois, par exemple, de le prendre chez toi et de le vendre sur le Bon Coin, tu peux juste te dire, bah, je le garde et je le vends sous forme de NFT. Ça va se démocratiser énormément dans le monde des sneakers, par exemple, où il y a des tonnes de gens qui achètent des sneakers pour les revendre. Il y a beaucoup de use case sur du utility qui vont certainement passer par de la revente. J'ai du mal à croire que les collections arrivent à faire des utilities qui sont toujours adorées et adulées de leur communauté.
Ok, top. Je te propose de conclure cet échange. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus sur les actualités de Tropi? Est-ce qu'il y a des actualités un peu croustillantes à venir?
Donc là, dans les semaines qui arrivent, on va passer en public bêta. Donc tout le monde va pouvoir aller sur tropi.com, commencer à créer des utilités, partager ses utilités à ses holders. Donc ça, c'est une super nouvelle. On a super hâte d'ouvrir enfin le produit. On a été très opaque sur ce à quoi ressemblait Tropi jusqu'à présent. Donc c'est la grosse actualité du moment pour nous. Et puis, ben, toujours suivre cette vision. Je pense que ça va être des petits progrès, toujours, tous les jours des petits progrès jusqu'à ce qu'on arrive à toute cette vision que je t'ai développée là. Mais voilà, la prochaine grosse actualité, c'est ça. On arrive en public bêta d'ici quelques semaines et allez sur tropi.com pour faire vos utilités.
Ouais, bravo, c'est un vrai milestone et c'est top. Donc en gros, entre le moment où vous avez développé le produit, enfin là, vraiment la première version, et on va dire dans quelques semaines, combien de temps se sont écoulés
Je dirais ouais, 6 mois.
Ok, ouais, donc
5 6 mois.
market très très rapide, c'est top. Et enfin, une dernière question, quels conseils donnerais-tu à quelqu'un qui veut lancer un projet dans le Web3?
de s'entourer pas qu'avec des gens dans le Web3. Le monde dans le Web3, non, non, mais je pense que c'est un bon conseil. Enfin, moi, j'ai eu la chance d'être entouré dès le début avec des gens qui connaissent l'entrepreneuriat, qui ont déjà fait, qui ont fait les erreurs 1000 fois. Et bénéficier de ces erreurs dès le début, on gagne énormément de temps, en fait. Et l'entrepreneuriat, c'est une méthode de travail, c'est une manière de penser. Et être bien entouré par des gens qui ont fait des choses. Alors, je vais reprendre, c'est pas d'être entouré que par des gens qui n'ont pas fait du Web3, mais d'être bien entouré par des gens qui ont fait des choses avant, ça permet de gagner tellement de temps. Vraiment, moi, à titre personnel, ça m'a beaucoup aidé d'être entouré de quelqu'un comme Guillaume qui m'a apporté certains mécanismes, qui m'a aussi apporté une certaine ouverture d'esprit. Je pense qu'on s'apporte beaucoup de choses complémentaires chacun, c'est pour ça qu'on est co-CEO pour l'instant. Mais en tout cas, c'est sûr que ça nous a permis de gagner énormément de temps. Donc voilà, mon conseil, entourez-vous bien.
Ok, super conseil. Merci beaucoup François, c'était vraiment intéressant.
Merci à toi, Gary. C'était un
Et je te dis à
plaisir.
très bientôt.
À bientôt, ciao.
Et voilà, c'est déjà la fin de l'épisode. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que le Web3 a désormais encore moins de secrets pour vous grâce à notre invité du jour. Bien entendu, vous pouvez partager cet épisode avec votre entourage, connaisseur ou non du Web3. D'ailleurs, si vous avez des recommandations d'invités pour ce podcast, vous pouvez me contacter en tapant Gary Peneza sur LinkedIn. Je vous dis à très vite dans les coulisses du Web3.